maintenant Jean-Jacques Jespers qui va nous parler de, voilà, du contexte légal et déontologique dans lequel s'inscrivent les caricatures.
Donc on va remonter un peu aux origines de la notion de liberté d'expression et à la manière dont elle fonctionne dans notre société. Je dis bien dans notre société parce qu'évidemment c'est une notion qui est tributaire des conditions, je dirais, juridiques et philosophiques propres aux sociétés démocratiques occidentales. Et cette notion s'est évidemment répandue de par le monde, mais elle reste quand même très marquée par l'héritage des Lumières, c'est-à-dire par cette phase de l'appropriation du pouvoir par les nouvelles classes sociales émergentes en 1789, phase dans laquelle la liberté d'expression est apparue comme une sorte de revanche des classes qui jusque-là avaient été obligées de se taire sur les classes qui avaient le monopole de la parole. Donc la bourgeoisie a fait émerger cette notion de liberté d'expression et on la retrouve dans la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Alors là, soyez très attentifs à cette phrase. Ne faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et article 11, qui est fondamental, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Donc ça, c'est vraiment la Déclaration universelle, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pardon, c'est le texte fondateur de toute la pensée libérale et démocratique occidentale. Et c'est à partir de cet article 11 que va se développer la notion de liberté d'expression. On retrouve la même notion dans une autre charte tout à fait fondamentale qui a été votée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, les Nations unies qui venaient d'être créées et qui rassemblaient au fond tous les peuples et toutes les nations du monde dans un espoir de paix, de conciliation et de civilisation. Et l'article 19 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme dit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression », ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, très important, et celui de chercher, recevoir et répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées. Informations et idées. Donc, il y a à la fois la notion de droit à l'information et la notion de liberté d'exprimer des idées par quelques moyens d'expression que ce soit, y compris, bien sûr, par la caricature, par le dessin. On retrouve de nouveau cette notion quelques années plus tard, 2 ans plus tard, en fait, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exprime, encore une fois, les valeurs de la société européenne à ce moment-là. Donc cette convention a été votée au sein du Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est une institution qui regroupe 47 États du continent européen et qui a des compétences en matière culturelle et de droits de l'homme. Et donc la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dit, article 10, paragraphe 1, « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorité publique. » Donc c'est très important, pas d'ingérence d'autorité publique, c'est-à-dire pas de censure et sans considération de frontières. Plus large, 16 ans plus tard, le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été initié par les Nations unies et qui est à ce jour adopté par la quasi-totalité des pays membres des Nations unies, c'est à peu près 192 pays aujourd'hui. Dans son article 19.2, le pacte en question dit « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce. » Alors il faut quand même faire une petite différence entre la Convention européenne que vous avez vue tout à l'heure et le pacte. C'est que la Convention européenne, elle a une valeur obligatoire. Le pacte, c'est juste un engagement. Très important aussi, l'article 18.2 de ce fameux pacte qui dit « Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix ». C'est un peu ce que ce verset du Coran résume dans une phrase tout à fait remarquable. « En religion, pas de contraintes ». Donc on ne peut être obligé d'adopter une religion, on ne peut pas être obligé d'adopter une religion ni de la quitter. Alors la Convention européenne des droits de l'homme a créé un organe pour vérifier si elle était bien adoptée et si elle était bien appliquée par les États membres. c'est un tribunal international qui se base sur le texte de cette convention, qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg et qui vérifie si la convention est appliquée par les États signataires. C'est aussi le dernier recours pour les citoyens des 47 États, après tous les recours nationaux, appels, cassations, etc. Et ces arrêts, ces jugements, donc, sont contraignants. Cette Cour européenne des droits de l'homme a précisé la notion de liberté d'expression. Elle dit notamment, dans deux arrêts fondamentaux, comment il faut comprendre la liberté d'expression. Dans l'arrêt Handyside de 1976, la liberté de diffuser toutes les idées et opinions inclut celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Donc la liberté d'expression, c'est une liberté de heurter, de choquer et d'inquiéter une fraction quelconque de la population. Dans un deuxième arrêt de 1997, la même Cour européenne dit « La liberté d'expression inclut le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation ». Tous les exemples que vous avez vus dans les deux exposés précédents montrent que, effectivement, la caricature implique de heurter, de choquer, d'inquiéter, et implique toujours une certaine dose d'exagération, voire de provocation. La liberté de la presse, elle, eh bien, finalement, ce n'est qu'une modalité de la liberté d'expression. Elle n'existe bien sûr que dans les pays démocratiques, c'est-à-dire quand même à peu près une cinquantaine de pays sur les quelques 190 répertoriés aux Nations Unies. Le texte de l'article 25 de la Constitution belge le résume bien. La presse est libre, la censure ne pourra jamais être établie. Et c'est valable pour les médias imprimés, audiovisuels et en ligne. En France, ce n'est pas inscrit dans la Constitution, c'est une loi, la loi sur la presse de 1881. Mais les principes sont évidemment les mêmes. Mais attention, la liberté d'expression n'est pas une liberté absolue. En fonction de ces grands textes internationaux, il y a des exceptions possibles. L'article 10, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme dit « Les États peuvent imposer des formalités, conditions, restrictions et sanctions à la liberté d'expression ». Mais il y a deux conditions. Il faut que ce soit prévu par une loi, donc il faut qu'il y ait une assemblée qui ait voté une loi. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il s'agisse de mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à la sûreté publique. Vous voyez l'exposé complet des conditions dans lesquelles on peut éventuellement prendre des lois, je dis bien des lois, qui restreignent dans une certaine mesure l'exercice de la liberté d'expression, mais pas son principe, l'exercice. Alors on peut dire que la liberté d'expression, en fait, c'est une liberté de nuire. Contrairement à ce que prévoyait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ici, il s'agit d'une liberté qui empiète sur celle des autres. J'ai le droit de nuire puisque j'ai le droit de choquer, de railler, de ridiculiser. Mais il y a des libertés qui empiètent sur celles des autres. Par exemple, si vous avez un bébé et que vous habitez dans un appartement, si le bébé pleure la nuit, eh bien, vous empiétez sur la liberté des autres. Ben, il n'y a rien à faire. C'est un trouble de voisinage légitime. Mais la loi peut toujours réprimer les abus de cette liberté. En démocratie, la liberté d'expression aussi est une condition de la démocratie. La démocratie, c'est la confrontation égale des opinions. Si une de ces opinions ne peut pas s'exprimer, il n'y a plus confrontation égale des opinions, donc il n'y a plus démocratie. Et je rappelle que la loi peut réprimer les abus, par exemple, non-respect du secret de la vie privée, non-respect de la dignité, non-respect de l'honneur ou de la réputation, non-respect de tous ces droits qui sont des droits fondamentaux des personnes. Dans ces cas-là, eh bien, il peut y avoir des répressions légales, en quelque sorte, des abus de la liberté d'expression. La calomnie, la diffamation et l'injure sont des délits, mais ça ne concerne pas les groupes. Un autre abus qui est réprimé par la loi, c'est l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qui se trouve dans les lois de 2007 en Belgique, et qui réprime tout comportement consistant à enjoindre à quelconque de pratiquer une discrimination ou de la haine ou de la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe ou d'une communauté. Là, il s'agit de droits collectifs. Et la discrimination peut être fondée sur une prétendue race, la couleur de peau, etc. etc. Donc tous les critères que vous imaginez bien dans une loi qui vise à lutter contre les discriminations. Mais attention, alors il faut bien faire la distinction. Cette incitation doit être vraiment une incitation à l'action. Si je dis « je n'aime pas les musulmans, Charlie est un journaliste mamophobe, le lobby juif tient les médias, il y a trop de noirs dans les quartiers », ce sont des opinions, pas des délits. Si je dis « déportons les musulmans », on n'a pas tué assez de journalistes à Charlie, il faut rouvrir les chambres à gaz, les Noirs doivent être exclus des écoles, ça, ce sont des délits, parce que ce sont des incitations à l'action. Sauf, évidemment, sauf s'il s'agit de second degré, d'ironie, de parodie. Et là, évidemment, il y a une part très large qui est laissée à l'interprétation. Et la compréhension de l'ironie et de la parodie, c'est malheureusement une qualité qui n'est pas uniformément et universellement répandue. Si vous êtes, si vous vous sentez victime de cette incitation à la provocation ou provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine, eh bien, vous pouvez vous adresser au Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Voici le site. J'évite encore un petit moment pour vous dire que le blasphème, lui, n'est pas réprimé dans notre droit, en tout cas. Il n'existe qu'à l'intérieur d'une religion, il ne concerne que ses pratiquants. Comme le dit la théorie juridique, seul Dieu pourrait venir se plaindre de l'outrage que constitue le blasphème, et personne n'a le droit de venir se plaindre à sa place, ou de laver l'outrage à sa place. En tout cas, le blasphème n'est pas un délit en Belgique ou en France, sauf en Alsace, bizarrement, parce qu'il y a le Concordat qui est toujours d'application en Alsace, ni dans 23 autres pays de l'Union européenne. Il n'est un délit qu'en Allemagne, au Danemark, en Grèce, en Irlande et en Italie, mais dans ces pays-là, il n'est jamais poursuivi que s'il trouble gravement l'ordre public. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'arrive au terme. Merci.